Du jeudi 9 au vendredi 17 janvier 2003, Ouagadougou, Banfora, la fierté d'un Burkinabé. Nous restons quelques jours à Ouagadougou, le temps de faire connaissance avec les jeunes de l'APAM et de rencontrer Madame Touré. Madame Touré est la femme du responsable des études de l'Institut des jeunes aveugles de Bamako que nous avons connu lors de notre passage au Mali. C'est la première femme aveugle du Burkina avoir eu son bac en braille. Bac qu'elle est allée passer en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso n'offrant pas à l'époque la possibilité aux déficients visuels de passer l'examen. Elle nous raconte son parcours. Nous écoutons le cursus d'une femme tenace, éternelle étudiante. Ces dernières années, elle a repris des études de sociologie. Elle est aussi professeure de braille à l'APAM et joue un rôle clé au sein de l'Association des femmes aveugles et malvoyantes de l'Afrique de l'Ouest. Un bel exemple de volonté, d'engagement et de partage de son savoir. Cela fait 2 jours que nous sommes à Ouagadougou, et il est temps pour nous de partir. Évariste a déjà séduit toutes les jeunes filles de la PAM qu'il ne connaissait pas encore, et il nous reste des kilomètres à faire avant Bobo. Un troisième tandem se joint à notre expédition. Kone Soleiman, avec qui nous avons partagé notre chambre ces 2 derniers jours, souhaite nous accompagner sur quelques kilomètres. Il a fait signe à un pilote habitué à diriger le tandem de la PAM. Tous les deux nous montrent le chemin. Nous traversons le quartier neuf de Ouaga 2000, puis la banlieue périphérique de la capitale, avant de laisser le goudron pour se retrouver sur la piste qui nous mènera jusqu'à Sapui. Nous ne pouvons plus nous perdre. Nos deux amis nous laissent. Nous continuons seuls, sur une voie superbe. Nous croisons des campements de nomades peuls, des bœufs autour de retenues d'eau, des cultures. L'aridité du nord burkinabé laisse place à la végétation du sud. Nous suivons la future route qui rejoindra Ouagadougou à Accra, capitale du Ghana. Les travaux battent leur plein. De nombreux camions chargés de terre empruntent la piste. Leur passage soulève la poussière et crée un nuage épais que le vent a du mal à dissiper. Chaque passage nous recouvre d'une couche de particules brunes qui viennent se superposer sur notre peau, qu'elle soit noire ou blanche. La première couche dore la peau. La seconde homogénise le teint. Les suivantes forment une couche protectrice de plus en plus épaisse contre les ultraviolets. En milieu d'après-midi, Évariste se sent complètement effacé. Son postérieur est souffrant, ses jambes douloureuses. La fatigue rend chacun de ses mouvements délicats. Devant son état et la difficulté de la piste, Diego et moi évoquons la possibilité de diminuer la distance prévue et de nous arrêter dans le premier endroit qui nous semblera accueillant. En nous entendant, Évariste, qui s'était accroupi, se redresse d'un coup. « Moi, je suis Burkinabé, du pays des hommes intègres. Je suis de ceux qui n'ont qu'une parole et qui n'aiment pas la honte. Je préfère mourir plutôt que ne pas arriver ce soir à Sapui. » Proclamant une phrase prononcée par l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, « La patrie ou la mort nous vaincrons », il enfourche son tandem. Devant tant de détermination et un honneur mis en jeu, nous ne pouvons que nous exécuter et reprendre la piste. Il fait nuit noire quand nous arrivons à Sapui. Quelques jours plus tard, entre Léo et Ouessa, alors que nous reprenons des forces à l'ombre d'une case où nous avons déjeuné, nous faisons la connaissance d'Abdoul, un Gouroussi, une des ethnies du Burkina Faso, qui se présente à nous comme l'oncle de tous. De nouveau, nous sommes confrontés à la fierté d'un Burkinabé. L'oncle de tous parle haut et fort, paradant autour d'une jeune femme à qui il fait la cour. Il parle de musique, qui malheureusement pour lui, se trouve être le domaine de prédilection d'Évariste. Ce dernier nous commente les bêtises que raconte l'autre, sans pour autant intervenir dans son monologue. Allant toujours plus loin dans la fanfaronnade, l'oncle de tous affirme haut et fort que les femmes de son ethnie sont réputées les plus belles du Burkina. Il n'en faut pas plus pour faire réagir Évariste. Mossi, les Mossi, forment une des ethnies du Burkina, et fier de l'être. La joute oratoire se met en place. Chacun y va de ses arguments. Historique sur les 5 dernières années des podiums Miss Burkina, célébrité reconnue, expérience personnelle. Rapidement, le sujet étant secondaire face à la volonté de s'imposer, on passe à d'autres thèmes. Retour à la musique, puis thème des fréquentations et connaissances, des sources d'informations utilisées pour être au courant des dernières nouvelles, du lieu d'habitation. Un affrontement classique qui aurait pu avoir lieu à n'importe quel endroit du monde où le désir de domination se manifeste. La particularité burkinabé tient dans son dénouement. L'intervention d'un vieux qui, trouvant que le ton a un peu trop monté, se lève et prend la parole. Devant l'autorité de l'âge, les deux parties ne peuvent que se taire. Le débat est clos. Après le jeu de la joute oratoire, le jeu du tandem. Nous reprenons la route en direction de Ouessa. Quelques heures plus tard, l'oncle de tous nous rejoint à mobilette. Il dit avoir mis du temps à nous rattraper. La route descend un peu plus, les tandems accélèrent. La mobilette suit, quitte à forcer un peu sur le moteur. Le bruit qu'il fait en atteste. L'oncle de tous finit par nous doubler. Nous le rejoindrons quelques kilomètres plus loin, au bord de la piste, où une panne de bougie l'a contraint à s'arrêter. Après une journée de vélo pendant laquelle nous nous sommes bien amusés, nous arrivons sur la place du village de Ouessa, où se trouve un grand balafon. En nous voyant, deux balafonistes et un percussionniste se mettent à jouer. Diego sort son violon. Les animations continuent. Ça danse, ça joue, ça rit. Amos propose aux musiciens de se rafraîchir au cabaret autour d'un dolo. Ils acceptent, mais nous font aussi savoir qu'ils souhaitent être rémunérés pour leurs prestations. Ils nous expliquent que quand des musiciens se produisent pour une cérémonie, ils reçoivent de 200 à 500 francs CFA par personne, entre 0,3 et 0,7 euros. Amos et Évariste trouvent cette demande déplacée. Les musiciens se sont mis à jouer spontanément. Diego s'est joint à eux. L'ambiance s'est créée. Notre couleur de peau fausse parfois les relations. Nous avons passé un bon moment et n'avons pas le sentiment de les avoir ni forcés ni escroqués. Dommage qu'ils aient pris cela autrement. À Ouessa, nous passons la nuit chez le délégué du village. Au moment du concert improvisé, ce dernier travaillait dans ses plantations. Il nous explique qu'il a énormément de travail, car il y a quelque temps, des éléphants sont passés à travers ces terrains et ont tout arraché sur leur passage. Les bananiers sont déracinés. Le réseau d'irrigation est dévasté. Nous nous en rendons compte le lendemain matin en visitant des cultures. Pour avoir de quoi replanter, le délégué s'est mis à cultiver du maïs, une céréale qui permet un gain rapide sur investissement. Il espère que de la sorte, il pourra rapidement refaire pousser des pommes de terre, des salades, des mangues et des goyaves comme auparavant. Nous continuons notre descente dans le sud. À Sidiradougou, Diego tente de tenir le journal de bord de la veille avec Évariste, mais ce dernier tombe de sommeil. Il a l'habitude de faire la sieste en début d'après-midi et sitôt son déjeuner avalé, ses yeux se ferment mécaniquement. Avec amusement, nous regardons sa tête s'incliner, tomber sur son épaule malgré ses efforts. Un client du restaurant où nous nous sommes arrêtés déjeuner s'inquiète de l'état de fatigue de son frère et quand nous repartons, il nous fait ses recommandations. Ne forcez pas trop le rythme. S'il savait qu'Évariste est le premier à vouloir battre le record de distance réalisé au sein d'un même pays, pourtant, en cette fin de journée, nos organismes se fatiguent plus facilement. Tout comme les tandems, la roue arrière de Noisette a pris du jeu. Elle fait tanguer et rouler ses passagers comme sur un bateau. Après auscultation, il s'avère que cette dangereuse souplesse provient des rayons qui ont grand besoin d'être tendus. Le vélo est déchargé, réparé, et nous pouvons de nouveau rouler sans que nos copilotes aient le mal de mer. Nous entrons dans la région de la Comoé, le jardin potager du Burkina Faso. Cette région est, toute proportion gardée, la plus arrosée du pays. Cela permet de cultiver des fruits, des légumes, voire du riz sur certaines parcelles aménagées. Le changement de végétation est notable. La brousse aride et jaunie par le soleil du Sahel laisse place à une nature plus verte. De grands arbres, des manguiers, des palmiers, des rogniers ou des baobabs apportent de l'ombre et de la fraîcheur. Plus nous descendons vers le sud, plus l'eau réapparaît. À Bandfora, nous allons même nous baigner sous des cascades. C'est une première pour Amos et Évariste, lequel dira entre deux tasses. Ce qui est bien dans une cascade, c'est que quand tu te douches à deux, trois ou quatre, il y a toujours assez d'eau pour tout le monde. Cela change en effet de nos demi-bouilloires portées à bout de bras pour nous laver. On profite de l'eau en quantité et en puissance pour se décrasser. Et il ne faut pas moins de la force d'un jet d'eau de 4 mètres pour venir à bout des couches de terre et de poussière successives qui se sont accumulées sur nos peaux en 10 jours de piste. Nous retrouvons nos couleurs initiales, un peu moins bronzées pour les uns, un peu plus foncées pour les autres. Non loin de Banfora se trouve la région des pics de Saint-Doux. Cette région est particulièrement connue pour son respect des coutumes ancestrales. Les Wara, qui la peuplent, continuent de pratiquer différents rites. Rejoindre Saint-Doux rallonge notre itinéraire, mais bien que fatigué, chacun manifeste de l'intérêt pour cette région et souhaite s'y rendre. D'un commun accord, nous poursuivons un peu plus loin notre aventure. En chemin, nous croisons un jeune couple blanc faisant le même trajet que le nôtre sur une unique mobylette. L'équilibre a l'air instable et la scène est amusante. Le cyclomoteur slalome d'un côté de la piste à l'autre, cherchant les passages où le sable est moins profond. En se rapprochant d'eux, Diego réalise qu'il connaît le conducteur. Adrian est un Anglais qu'il avait croisé au consulat du Burkina à Bamako, il y a un mois. Sa coéquipière, Annick, est canadienne. Rendez-vous est pris à Saint-Doux. À peine sommes-nous arrivés à Saint-Doux que Tiemoko, jeune fils du chef coutumier du village, se présente à nous et se propose de nous guider le lendemain matin à travers les pics. Il a été informé de notre arrivée par le bouche à oreille et nous qui pensions avoir été discrets. Il nous explique que les premiers habitants des pics seraient des Dogons ayant fui les falaises de Bandiagara, au Mali, à la suite de guerres tribales. Ces derniers ont suivi le massif montagneux jusqu'à son extrémité, Saint-Doux. C'est là que leur chef serait rentré en contact avec les génies du lieu, avec qui il aurait signé un pacte de protection mutuelle. Depuis lors, jamais personne n'a pu conquérir ces pics. C'est pourquoi la région porte ce nom en Dogon, Saint-Doux signifie protégé. Avec Tiemoko, Adrian et Annick, nous nous rendons sur le site des pics, lesquels, après les explications de Tiemoko, se parent d'un nouveau mystère. Nous escaladons un premier renfort et nous retrouvons sur un plateau recouvert d'un tapis d'herbes brûlées. Tiemoko nous raconte qu'elles ont pris feu hier, alors qu'il faisait visiter les pics à d'autres tout babou. D'après lui, ce sont les génies qui ont provoqué cet incendie. Adrian, d'un air mi-inquiet, mi-humoristique, s'enquiert. Et les génies, est-ce qu'ils aiment les tout babou ? Une réflexion qui provoquera le rire d'Évariste pendant toute la descente des pics. Amos, quant à lui, semble intrigué par l'attrait qu'Adrian a pour le continent africain. Ce dernier lui explique. Dans mon pays, chaque rue, chaque espace public est truffé de panneaux d'interdiction. Tout ce que tu fais est surveillé par des caméras ou des policiers. Et même quand on n'a pas de mauvaises intentions, c'est pesant. Ici, je me sens libre, moins agressé. Des pics, nous voyons une partie de l'itinéraire qui nous reste à parcourir jusqu'à Bobo Dioulasso. Plus grand chose en comparaison de ce qui a été fait. En une petite journée, nous serons de retour. Tout est allé si vite. Diego prend la main d'Amos et lui décrit le paysage. La piste que nous avons empruntée hier et où nous avons rencontré Adrian et Annick, les cascades de Banfora dans lesquelles nous nous sommes baignés, la plaine de la Komoé et ses plantations. Dans cette direction, il doit y avoir Ouagadougou dans le prolongement. Dori et le Sahel, là-bas au loin, derrière cet horizon poussiéreux. En 16 jours, nous avons roulé 1165 km, la plus grande distance parcourue dans un pays d'Afrique. Nos tandems ne sont pas passés inaperçus, chevauchés par des passagers expansifs, n'hésitant pas à chanter à tue-tête, à interpeller les personnes que nous croisions en roulant. Nous avons assuré l'animation tout le long des pistes que nous empruntions, dans tous les villages où nous nous arrêtions. Les villageois qui ont parlé avec Amos et Évariste se rappelleront sans doute longtemps de notre convoi et de ces aveugles bien différents de l'image qu'ils pouvaient en avoir.